VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 4 mars 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le Tchad a décidé de fermer sa frontière avec la Libye.
En République centrafricaine, pas de changement majeur dans le nouveau gouvernement post-accord de Khartoum annoncé hier.
En Algérie, nouvelle manifestation dans la nuit de dimanche à lundi contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat.
Ici à Washington, le président Donald Trump blâme les parlementaires démocrates après l'échec de son deuxième sommet avec Kim Jong-un.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Tchad, le ministre de la Sécurité, Mahamat Abba Ali Salah, a annoncé hier la fermeture de la frontière tchadienne avec la Libye, un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen. Des frappes françaises avaient stoppé l'avancée de cette colonne, suscitant la critique des détracteurs de N'Djamena. En visite à Kouribougoudi, dans le nord-ouest, au Tibesti, théâtre d'affrontements entre des orpailleurs et l'armée ces derniers mois, le ministre a indiqué dimanche que cette zone est devenue, je cite, « un carrefour de tous les malfrats, des terroristes et des rebelles. Tout individu qui se trouvera dans ce site de Koury sera considéré comme terroriste », a déclaré le ministre dimanche. Il a annoncé le désarmement de toute la population et l'interdiction formelle d'orpaillage. Plusieurs groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen.
En République centrafricaine, le nouveau gouvernement post-accord de Khartoum a été enfin dévoilé hier. Pas de changement majeur, mais a noté une légère augmentation des portefeuilles ministériels qui ont été portés de 34 à 36. De Bangui, des détails avec notre correspondant Freeman Sipila.
La quasi-totalité des membres de l'ancien gouvernement sont non seulement maintenus, mais conservent également leur poste. 15 nouveaux entrants contre 21 anciens pour un total de 8 femmes. Des représentants des partis politiques, des groupes armés, mais aussi de la société civile y sont représentés. Marie-Noëlle Koyara, la première femme ministre de la Défense en Centrafrique, garde son portefeuille. Un nouveau ministère dit de désarmement est créé et c'est le chef de l'aile dure anti-Balaka, Maxime Mokom, qui l'occupe. Il est secondé d'un délégué, le colonel des forces armées centrafricaines, bienvenue Célesson. Les affaires étrangères restent sous les commandes de Sylvie Baipo-Témon, nommée fin 2018 dans l'ancien gouvernement et très peu connue dans le milieu politique. En août, cependant, la sortie de Herbert Gontran-Djono-Ahaba, pressenti premier ministre après l'accord de Khartoum. Souleymane Daouda, le porte-parole de l'UPC, un groupe armé très actif dans le centre et le sud-est du pays, est nommé ministre de l'élevage et de la santé animale. Des départements comme les travaux publics, les transports, le tourisme sont aussi tenus par des représentants des groupes armés. Première réaction, c'est le Front démocratique du peuple centrafricain, FDPC, qui monte au créneau. Ce mouvement armé, actif dans l'Ouest et dans une partie du Nord-Ouest, a exprimé son mécontentement dimanche en interdisant la circulation sur une partie du corridor Boire-Beloko. Mécontentement parce que son chef, Martin Koumtamadi, alias Abdoulaye Miskine, en exil à Brazzaville au Congo, ne fait pas partie du nouveau gouvernement. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, la population du quartier Ndosho est descendue dans la rue pour exprimer sa colère contre l'insécurité après une nouvelle tuerie qui, dans la nuit de samedi à dimanche, a coûté la vie à 6 personnes, dont un militaire des FRDC. C'était la troisième attaque en moins d'un mois. La police, quant à elle, appelle à l'apaisement et à la collaboration avec les civils. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, fait le point.
C'est vers 19h local que les assaillants ont commencé à tirer sur des passants. Ils ont commencé dans une officine pharmaceutique où ils ont tué les pharmaciens et les clients qui se trouvaient dans cette petite pharmacie du quartier. Les habitants du quartier Ndosho, pris par la colère, ont manifesté ce dimanche pour protester contre l'assassinat et le vol de plusieurs biens de valeur. Des barricades ont été érigées sur la voie publique. Des jeunes gens ont également brûlé des pneus sur la chaussée. Tous accusant les autorités tant politiques que militaires l'air de passivité face à l'insécurité dans leur quartier. Sur des cartons portés par ces jeunes, on pouvait lire par exemple des messages tels que « Non à l'insécurité, nous sommes tous des Congolais » ou encore « Trop c'est trop, nous voulons la sécurité ». Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les assaillants seraient venus du parc national de Virunga. Au mois de février, 14 autres personnes avaient été abattues par des hommes armés, presque dans des conditions similaires dans ces quartiers voisins du parc de Virunga, qui a été souvent les refuges de plusieurs groupes armés, dont la rébellion rwandaise des FDLR qui est souvent pointée du doigt. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Au Libéria, trois dirigeants de la Banque centrale placés en garde à vue après la publication d'un audit indépendant doivent comparaître ce lundi pour la première fois devant un juge de Monrovia. Le point avec Idriss Fall.
Charles Sirleaf, fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale jusqu'à sa démission en août dernier. Dorbor Agba, un autre ancien dirigeant, a été interpellé. Milton Weeks, ancien gouverneur de la Banque centrale, s'est lui aussi rendu à la police. Peu après publication du rapport d'un cabinet conseil américain, Kroll Associates. Dans un document de 68 pages, l'audit souligne des problèmes à tous les niveaux du processus de contrôle des billets entrant et sortant de la Banque centrale pendant les deux dernières années de la présidence de Mme Sirleaf. La Banque centrale a commandé en 2016 et 2017 de nouveaux billets pour 15 milliards de dollars libériens à la société américaine Crane Currency qui les a imprimés en Suède. Si 15 milliards ont été bien commandés, ce sont finalement 15,506 milliards qui ont été imprimés, livrés et payés. Enfin, le rapport souligne que le relevé des entrées et sorties des coffres de la Banque centrale se faisait sur des formulaires écrits à la main.
En Algérie, des centaines de personnes ont manifesté dans la nuit de dimanche à lundi pour protester contre la candidature déposée plus tôt d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle pour un cinquième mandat qu'il s'est engagé à abréger s'il était réélu le 18 avril et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée dont la date serait fixée à l'issue d'une conférence nationale. Le point avec John Lyndon.
Le dossier de candidature de M. Bouteflika a été déposé par Abdel Ghani Zalane, son tout nouveau directeur de campagne. Six autres candidats ont déposé leur dossier devant le Conseil constitutionnel qui va statuer dans les 10 jours sur leur validité. Auparavant, dans une lettre lue hier soir à la télévision nationale, le président algérien au pouvoir depuis 20 ans avait confirmé sa candidature à un cinquième mandat. « Si le peuple algérien me renouvelle sa confiance le 18 avril, je prends l'engagement d'organiser une élection présidentielle anticipée dont la date sera arrêtée par une conférence nationale », a annoncé le chef de l'État dans cette lettre. Il dit aussi avoir écouté et entendu le cri du cœur des manifestants qui, selon lui, ont exprimé une inquiétude compréhensible face aux incertitudes. M. Bouteflika, âgé de 82 ans, est affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC. Depuis une semaine, il est hospitalisé en Suisse pour une visite médicale dite de routine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a affirmé hier que l'audition publique de son ex-avocat Michael Cohen par une commission d'enquête parlementaire pouvait avoir contribué à l'échec de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï la semaine dernière. Dans une série de tweets, M. Trump a déclaré « Le fait que les démocrates interrogent lors d'une audience publique un menteur et un fraudeur condamné en même temps que le très important sommet nucléaire avec la Corée du Nord est peut-être un nouveau creux de la politique américaine et peut avoir contribué à l'échec du sommet. » Le président américain fait allusion ici à sa décision de quitter Hanoï la semaine dernière sans conclure le moindre accord avec Kim Jong-un sur les ambitions nucléaires de Pyongyang.
Afghanistan, les pourparlers de paix entre les États-Unis et les talibans progressent pas à pas, a déclaré un porte-parole des talibans au lendemain d'une attaque d'envergure contre une base qui a fait de nombreux morts. De nouveau, Idriss Fall.
Les discussions entre les deux parties ont repris samedi à Doha, au Qatar, après une suspension de 2 jours pour permettre des délibérations internes. Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, a dit hier dans un communiqué que les pourparlers progressent pas à pas et que pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. L'équipe américaine est dirigée par l'émissaire Zalmay Khalilzad, qui n'a fait aucun commentaire. Le New York Times a publié un article jeudi disant que le Pentagone prévoit un retrait des forces américaines d'Afghanistan d'ici 3 à 5 ans et qu'un tel plan a été mis sur la table. Washington œuvre aussi pour un cessez-le-feu et l'ouverture d'un dialogue entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, des demandes qui ont été rejetées plusieurs fois par les talibans. Sur le terrain, samedi, une base conjointe américano-afghane a subi une attaque de plusieurs heures dans la province du Helmand. Au moins 23 membres des forces de sécurité afghanes ont été tuées.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Niger va bientôt créer une société d'investissement à capital privé de 5 à 10 milliards de francs CFA qui sera détenue par les hommes d'affaires du pays, rapporte la Tribune. Ceci pour accélérer son plan de développement économique et social 2017-2021 qui vise à porter son PIB à 7% en 2021 contre 5,2% en 2018. L'État nigérien pense qu'il serait difficile d'atteindre ses objectifs de développement sans le secteur privé. En retour, il s'est engagé à accompagner les investisseurs locaux. En 2018-2019, le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 39 000 tonnes de fèves, a indiqué l'Organisation internationale du cacao. Ecofin rapporte que la production mondiale d'or brun est attendue à 4,79 millions de tonnes, soit une hausse de 150 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. La Côte d'Ivoire devrait réaliser une récolte de 2,15 millions de tonnes de cacao. Le Ghana devrait en produire plus de 900 000 tonnes. Pour finir, la semaine dernière, l'or valait 1305,36 $ l'once contre 1326,26 $ la semaine précédente. Cette baisse est due à l'optimisme des marchés. Ce métal étant considéré comme une valeur de refuge, il a tendance à s'apprécier en période d'incertitude politique et économique et à s'affaiblir lorsque l'optimisme domine les marchés. Autre cause de la baisse de l'or, le renforcement du dollar. De nombreuses matières premières comme l'or étant libellées en dollars, une hausse de ce billets verts les rend plus onéreuses pour les acheteurs utilisant d'autres devises.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la 4e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération.
Oui, et les classements ont été bouleversés. Dans le groupe A, l'AS Auto a chippé la 2e place à son adversaire du jour, Lassani Agadi, victoire 1-0. Succès précieux pour les Congolais qui sont à 3 points du leader Renaissance de Bekam, accroché 0-0 par le Raja de Casablanca. Et puis dans le groupe D, le Zamalek du Caire en difficulté est allé chercher un coup mais précieux succès 1-0 chez les Angolais de Petro Atlético. Les Égyptiens sont classés 3e à 2 points du leader, les Algériens de Naoussende, vainqueurs du 2e, les Kenyans de Gomaya 1-0.
Dans le groupe B, l'étoile du Sahel enchaîne.
2e succès de rang pour la formation de Sousse et une victoire importante 2-0 sur la pelouse des Nigériens de Nougou Rangers, ce qui lui permet de devancer le club sorti facile en tête du groupe. Les Tunisiens qui ont dû se contenter du match nul 0-0 sur le terrain des Burkinabés de Salitas. Enfin, dans le groupe C, les Zambiens de Nkana sont éliminés suite à leur défaite 3-0 au Ghana devant Asante Kotoko. En revanche, les Soudanais d'Al Hilal s'emparent de la tête de ce groupe après leur succès 3-1 sur Zesco United.
En Ligue des Champions, match en retard de la 4e journée et Constantine y est presque.
Oui, 3 victoires, 1 match nul et voilà les Algériens en tête du groupe C devant les Congolais de TP Mazembe. Le CS Constantine quasiment qualifié pour les quarts de finale de la compétition après son succès 3-2 lors de son match en retard face aux Égyptiens d'Ismaili qui sont eux déjà éliminés.
On passe au cyclisme avec l'épilogue du Tour du Rwanda et Merawi Kudus remporte la course.
L'Érythréen a remporté la première course par étape de sa carrière. Kudus a finalement tenu bon en tête depuis sa victoire sur la 2e étape. Il s'impose dans les rues de Kigali, 10 secondes devant l'Estonien Rim Tamari.
Basketball à présent avec la 3e fenêtre de l'Africa Basket cette ligue qui s'est achevée hier à Salé au Maroc.
Et les favoris se sont qualifiés pour le tour final. L'AS Salé d'abord, championne d'Afrique en titre à domicile, elle n'a pas tremblé. 3 matchs, 3 victoires. Et puis les Tunisiens de la jeunesse sportive caroanaise. À noter que la dernière fenêtre de cette Africa Basket League se tiendra cette semaine à Cotonou au Bénin. Et puis la NBA est avec vous. Les résultats des matchs joués cette nuit.
Détroit et Toronto 112-107. Washington et Minnesota 135-121. Oklahoma City, Memphis 99-95. Boston et Houston 104-115. Chicago et Atlanta 118-123. Charlotte, Portland 108-118. Et les Clippers et New York 128-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Bénin s'achemine vers des élections législatives sans la participation de l'opposition qui se plaint de lois taillées sur mesure selon elle. En tout état de cause, à la date limite de dépôt des dossiers à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, 7 partis politiques proches du pouvoir ont pu déposer leurs dossiers. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ni les fausses courries pour un Bénin émergent de l'ex-président Yahi Boni, ni restaurer l'espoir de Candide Azanayi, ancien ministre de la Défense Patrice Talon, ne sont en course pour les législatives du 28 avril prochain. Seule l'Union sociale libérale de Sébastien Ayavon a pu déposer son dossier, là encore sans le certificat de conformité. Pour le représentant de ce parti, le dossier déposé respecte les normes établies par le code électoral. Donc, la Mabalo.
Dans la loi électorale, on a énuméré toutes les pièces qu'il faut pour faire valider sa candidature à la Sénat. Dans les pièces prévues par la loi, il n'y a pas trace du certificat de conformité. Ça n'existe pas. Le certificat de conformité vient d'une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne fait pas la loi, ne légifère pas, en tout cas pour le moment, tant qu'il y a l'Assemblée nationale.
Sans le certificat de conformité, le dossier de ce parti de l'opposition encore en jeu pourrait être rejeté. Quelques heures après la clôture du dépôt des candidatures, l'opposition est montée au créneau pour exprimer sa volonté de participer aux élections, quel qu'en soit le prix à payer.
Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019. Prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale.
Les marches de protestation se multiplient un peu partout au Bénin pour dire non à une élection sans l'opposition. Après avoir déploré l'absence des dossiers de l'opposition à la Sénat, Martin Assoba de l'ONG Alcré pense que force doit rester à la loi. L'opposition, selon lui, aurait pu tout faire pour se mettre à jour.
Nous n'allons pas tout le temps prendre des lois qui sont promulguées par le chef de l'État et que ces lois-là soient mises au placard. Non, force doit rester à la loi. Ils ont dit qu'on ne pourra pas faire les élections sans eux, j'en conviens, mais il faut que la loi soit respectée aussi.
L'opposition ne voit pas les choses de cette façon. Pour de leur faton, des fausses courries pour un Bénin émergent, le pouvoir en place a tout fait pour les éjecter de la compétition.
Depuis le début, l'intention était claire que le pouvoir en place avec les institutions en charge des élections n'ont pas voulu que nous participions aux élections. En tant que parti politique, en tant que béninois, en tant que patriote, nous avons tout fait. Ce qu'un parti politique peut faire pour avoir le certificat de conformité, ils ont aussi tout fait pour nous empêcher de l'avoir. Nous avons jugé utile de ne pas déposer, de nous replier pour savoir ce que nous allons faire.
Encore quelques jours pour que la Sénat rende disponible la liste des partis retenus parmi les 7 qui ont pu déposer leur dossier. En attendant, une commission de la CEDEAO séjourne depuis dimanche à Cotonou et ce jusqu'au 6 mars. Sa mission, évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines législatives. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Retour sur la réunion à Brazzaville au Congo des ministres en charge des télécommunications et de l'économie d'Afrique centrale. Ils ont exprimé leur volonté d'accélérer l'intégration de la sous-région à partir des infrastructures numériques. Reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
La déclaration de Kintélé, la petite commune du nord de Brazzaville qui abritait cette rencontre, est le résumé du plan consensuel du déploiement des infrastructures numériques. Les pays d'Afrique centrale s'accordent à mutualiser leurs efforts dans le domaine des communications numériques. Hervé Ngwa-Mendeng, un expert gabonais, revient sur l'esprit de ses engagements.
Ce programme concernant le développement des infrastructures et surtout faire en sorte qu'il y ait des interconnexions entre les pays pour que les projets soient tous des projets dans le développement numérique renforcent l'intégration régionale.
Le Congo-Brazzaville a déjà construit plus de 4000 km de fibres optiques déployées pour mailler l'ensemble du territoire en réseau très haut débit. Pour la RDC, le ministre Emery Okondji Njovu de l'économie numérique fait le point.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons construit des Kinshasa à Mwanda, 600 km, et des Kinshasa à Kasumbalesa, 3800. Nous sommes à l'attente d'un financement de la Banque mondiale pour continuer la troisième phase de construction de ces infrastructures vers l'est du pays et le centre. Et donc, vous le savez très bien, la RDC, c'est un pays continent, avec une superficie de 2 345 409 km².
La réunion de Kintélé appelle les pays de la sous-région à s'engager davantage dans l'intégration. Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, estime même que le temps de l'action est arrivé.
Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à l'ouvrage pour faire de notre zone communautaire une zone intégrée, interconnectée et dynamique. Ce pour matérialiser l'ambition exprimée par nos chefs d'État et de gouvernement à N'Djamena il y a déjà quelques années.
Reste au chef d'État de prendre la mesure de la déclaration de Kintélé. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les associations féminines se mobilisent pour dénoncer les viols et abus sexuels dont sont victimes les filles et femmes. Des témoignages sont enregistrés sur les cas recensés au quotidien dans les familles, les quartiers, les établissements scolaires et les milieux professionnels. Selon des statistiques gouvernementales, 1,5 million de Camerounaises sont concernées par ces crimes. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le bourreau souvent même peut être frère et né.
La parole se libère et les témoignages s'enchaînent.
Dans le pire des cas, c'est le père, alors vous êtes très mal parti pour résoudre ce problème.
Une quinzaine de femmes prennent part à un atelier d'échange sur les victimes de violences sexuelles dans le deuxième arrondissement de Yaoundé. Le phénomène concerne ici de nombreuses jeunes filles et femmes. Jeanne Telon est membre de l'association Femmes Autonomes de la Briqueterie, un quartier populaire de la capitale.
Nous avons une jeune fille qui a été violée par son oncle paternel. Elle est même tombée enceinte. Elle a eu un bébé de lui. Sa famille estimait que c'était un linge sale qui devait se laver au sein de la famille. Ça fait qu'ils ont eu à déplacer la fille pour qu'on n'ait plus de traces.
Les jeunes filles scolarisées sont aussi comptées parmi les victimes de viols et abus sexuels. Mais elles optent très souvent pour le silence, témoigne Fadima Tounana, conseillère d'orientation principale au lycée technique de Yaoundé.
Arrive comme ça, nous faisons en sorte que l'enfant se sente en sécurité. Nous donnons à l'enfant des astuces pour pouvoir survivre au traumatisme. Et dans les cas pareils, le problème ne résulte pas que de l'enfant, il faut que ça soit stoppé au niveau de la famille.
Il ressort d'une récente étude de santé publique que sur une population de 37 719 filles et femmes camerounaises, 5,2% ont été victimes de viol et près d'un quart avaient moins de 10 ans au moment du viol. Clarisse Othélé, assistante sociale pour l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est le voisin qui abuse, c'est le père qui abuse, c'est le camarade de classe qui abuse, c'est l'inconnu aussi qui abuse les enfants. Donc on reçoit tous ces cas-là tout au long de l'année.
Co-fondatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, Elise Pierrette Poumenou pense que la question de violence sexuelle sur la jeune féminine au Cameroun tarde à être considérée par les pouvoirs publics en dépit de quelques avancées.
Aujourd'hui,
de plus en plus de familles portent plainte parce que leur fille est victime d'un viol. Les jugements sont rendus et nous pensons qu'il y a une évolution. Mais on n'a pas eu de loi spécifique contre les violences faites aux femmes. On a travaillé dans le code de la famille. On n'a toujours pas vu ce code validé.
Signe que les lignes rouges, trois Camerounaises ont brisé le silence sur les viols et abus sexuels dont elles ont été victimes dans un film documentaire projeté le 2 mars dernier à Douala. La productrice Laetitia Tognaloui, une jeune Camerounaise, a elle-même été victime d'abus sexuels. Yaoundé, Emmanuel Jouta, VOA Afrique.
La 26e édition du FESPACO a pris fin samedi au Burkina Faso. Le film du réalisateur rwandais Joël Karekezi, The Mercy of Jungle, of the Jungle, a remporté l'étalon d'or de Yenenga, le grand prix du festival. Le réalisateur dédie le trophée au jeune cinéaste de son pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Clap de fin pour la 26e édition du FESPACO, ainsi que le cinquantenaire de la Biennale du cinéma africain. Le Rwanda est monté sur la plus haute marche du podium. The Mercy of the Jungle, en français la miséricorde de la jungle, du jeune réalisateur rwandais Joël Karekezi, 33 ans, a remporté les talons d'or de Yenenga, le prestigieux prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA.
C'est grand chose, pas seulement pour moi, c'est pour ma génération. Et ça prouve qu'on est capable, de raconter nos histoires.
Joël Karekezi.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un film qu'on a fait, je dirais c'était pas facile, mais être en compétition, c'était aussi un grand honneur pour nous. Et gagner, c'est un appui vraiment, ça m'encourage à faire le prochain, très bientôt. Peut-être qu'il sera ici au FESPACO bientôt.
Le film Karma de Khaled Youssef de l'Égypte a lui remporté l'étalon d'argent, tandis que le bronze a été l'affaire de la Tunisie, avec Fatwa de Ben Momoud. C'est au moins une trentaine de prix spéciaux et palmarès officiels qui a été décerné au cours de cette cérémonie de clôture. Des lauréats qui ne peuvent qu'être satisfaits. Nadja Arek de l'Algérie, poulain de bronze avec Tata Milouda.
Beaucoup d'émotions, je suis très très ému. Énormément ému. C'est un honneur d'être ici. Ça a été pas facile, mais je suis très très contente d'être là. Je voudrais remercier chaleureusement Tata Milouda, Chakik Milouda, qui est le personnage de mon documentaire. C'est à elle que je dédie ce trophée, parce qu'on le partage ensemble. C'est incroyable, c'est formidable.
Mohamed Chalouf, représentant de Ben Momoud de la Tunisie, étalon de bronze avec Fatwa.
Le nord et le sud du Sahara doivent se connaître à travers la culture. Socialiser, materniser avec les cultures, le cinéma, là. Et c'est une occasion extraordinaire, le FESPACO. On essaye de dépasser nos préjugés, de se connaître mieux et être solidaires parce que notre salut est dans la solidarité panafricaine.
Le Burkina Faso, pays organisateur, en plus de ses prix spéciaux, doit se consoler avec deux autres prix dans le palmarès officiel. Aïcha Bourou a remporté l'étalon d'or du film documentaire avec le Loup d'or de Balolé. Le film d'Errance d'Apolline Traoré s'en sort avec le prix du meilleur décor en fiction long métrage. La 27e édition du FESPACO, c'est du 27 février au 6 mars 2021 à Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.